possible en matière de ce métier, de cette activité que vous avez en commun. Quelques mots peut-être de Xavier Cazard pour dire un mot, de manière à ce que nous puissions démarrer nos débats. La manière est assez simple. Il ne s'agit pas pour notre invité de cette fois-ci, qui est François Nonnenmacher, qui s'occupe de la communication en ligne du groupe Capgemini et qui est l'heureux auteur d'un livre Blogueur d'entreprise, qui va servir un peu de base à notre échange de ce début de matinée. On va avoir un cours, il ne s'agit pas d'avoir, je vous l'ai dit, un exposé ex cathedra, mais d'avoir quelques éléments de conviction de la part justement de cet auteur. C'est toujours difficile quand de synthétiser un ouvrage sur lequel on a passé beaucoup de temps on a donné beaucoup de soi, mais de manière après, ensuite, nous ayons un échange le plus spontané, sur la forme d'ailleurs un peu de ces blogs qu'il affectionne, un échange le plus dynamique et le plus ouvert possible. Xavier Cazard.
Donc, bonjour, merci d'être là nombreux aujourd'hui, avec le soleil en plus. Avec Stéphane Didier, on organise ces petits déjeuners depuis maintenant, depuis 2 ans, sur les interfaces sous le signe de la rencontre. Et la rencontre, c'est le partage d'expérience, c'est le fait de discuter ensemble de sujets qui intéressent l'univers de la communication. Avec François, ça a été une rencontre, déjà je vous remercie d'être venu, c'est une rencontre qui a commencé par la lecture de son livre Le blogueur d'entreprise, et ce qui m'a frappé avec les discussions que nous avons eues ensuite, c'est que bien au-delà de l'outil de blog, on a beaucoup plus parlé de la communication et de ce qui est en train d'évoluer dans la communication. Et en tant qu'agence, on est là pour essayer de comprendre les besoins de nos clients, d'anticiper un petit peu les enjeux qui contraignent leurs entreprises, apporter des solutions concrètes et innovatrices. Et toute cette discussion autour de l'évolution de la communication qu'on a eue avec François, je trouvais que c'était bien de la partager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une conférence sur le blog, non pas avec un axe de présentation technique, mais vraiment autour du débat, autour des questions. Et c'est Nicolas qui va animer ce débat et modérer ce débat.
Merci Xavier. Alors effectivement, dans la présentation qu'on a faite de ce débat, ça s'appelait « Un nouveau phénomène perturbe la planète communication ». Alors dans « perturber », il y a un peu « dérangé », il y a comme une gêne, mais effectivement, ça peut après, pourquoi pas, créer quand même certaines satisfactions au-delà de cette perturbation. Merci en tout cas donc François Nonnenmacher. Je rappelle, alors vous êtes passé les bonnes entreprises, c'est-à-dire que sont Apple, Netscape, qui sont effectivement dans cet univers du multimédia et de la communication, des références en termes de parcours, en termes de pratiques, et vous êtes maintenant en charge donc de la communication en ligne de Capgemini. Alors voilà, ça c'est pour finir cette présentation. Vous êtes évidemment l'auteur, détenteur d'un blog dont vous expliquer la démarche. Donc vous êtes à la fois praticien du blog et praticien de la communication de manière très classique, institutionnelle, enfin comme la communication peut être dans une logique d'entreprise. Merci en tout cas de vous prêter à cet exercice. Alors en quoi est-ce que ce blog est une activité perturbante ?
D'abord, je voudrais dire il y a deux aspects. Quand on parle du mot blog, pour moi, il y a vraiment deux aspects différents. Il y a l'outil d'un côté et le phénomène de l'autre. L'outil, c'est l'apparition de petits logiciels qui sont des systèmes de gestion de contenu extrêmement simplifiés qui ont permis à tout un chacun d'utiliser ce qu'Internet peut faire depuis sa création, qui est la publication d'informations multimédia, des textes, des sons, des images sur un réseau mondial. Et ce qui a permis le phénomène blog, c'est l'arrivée de ces outils extrêmement simples. Si vous avez, vous, dans vos fonctions de communication, utilisé des systèmes de gestion de contenu il y a déjà 5-6 ans, par exemple, par rapport à cette période-là et ce qu'on voit aujourd'hui comme outil, la simplification est absolument radicale. Donc on a des millions de personnes qui se sont mises à publier sur Internet pour arriver à ce que j'appelle l'ère de la publication personnelle, c'est-à-dire aujourd'hui, il est possible à un individu avec à peu près des moyens extrêmement simples qui sont une connexion à Internet et un ordinateur ou un téléphone portable par exemple, de publier directement sur le réseau. Ramenez-vous 10 ans en arrière, début d'Internet, pour une entreprise c'était quelque chose d'horriblement coûteux, pour un particulier c'était purement et simplement impossible. Donc c'est cette simplification et l'apparition de ces outils qui a amené le phénomène blog. Alors je voudrais vous donner juste quelques chiffres que j'ai pris en, remis à jour là. Il y a un moteur de recherche américain qui s'appelle Technorati et qui est spécialisé dans la recherche sur les blogs, qui fait une indexation permanente et en temps réel de ce qui se publie dans ce qu'on appelle la blogosphère. Alors pour eux, moi je considère qu'ils ne voient pas l'ensemble de tout ce qui se passe sur, sur la blogosphère, mais ils en sont aujourd'hui à indexer 39 millions de blogs, qui est un volume qui, d'après eux, double tous les 6 mois, qui avait un rythme il y a encore un an de doublement d'à peu près tous les 5 mois, donc je pense qu'on arrive là à avoir un très léger ralentissement, mais tout de même, à peu près maintenant, on est sur un rythme de quadruplement de taille de la blogosphère par an, ce qui est quand même pas mal. Ils voient, sur ces 39 millions de blogs, ils contiennent 2,4 milliards de liens. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, parce que les liens hypertextes sur Internet, c'est la fondation de ce réseau. Et ça explique aussi, on y reviendra j'espère, les différences que ça introduit par rapport à la communication institutionnelle bien linéaire, de haut en bas, où on ignore si possible l'extérieur. Tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne un nouveau blog toutes les secondes. 55% de ces 39 millions de blogs sont toujours alimentés 3 mois après leur création. On voit qu'il y a une masse, il y a une masse active là-dedans. C'est pas, il y a évidemment des gens qui testent, qui regardent si l'eau est froide ou chaude et qui décident de continuer ou de se retirer. Le volume de publication actuel est de 1,2 million de billets par jour, c'est-à-dire 50 000 toutes les heures. Vous imaginez le volume d'informations qui circulent. La langue anglaise compose aujourd'hui 31% des billets. C'est la deuxième langue et non la première. La première étant le japonais, 37% d'après Technorati, et le chinois en troisième à 15%. Le français de mémoire est à 2%. C'est là où je commence à me dire que leurs chiffres ne sont pas forcément très... Enfin, il faut les prendre avec une bonne poignée de sel. Aussi, dans la mesure où, si vous regardez la plateforme Skyblog, la radio Skyrock, il y a 4,8 millions de blogs sur Skyblog. Enfin, c'est le chiffre que j'avais hier. Il a déjà dû évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la moitié des billets, à peu près, qui sont publiés, sont catégorisés d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça a une certaine importance aussi dans l'aide à trouver des informations. On peut catégoriser un billet, moi, sur mon blog, l'ensemble de mes billets sont catégorisés. Ça permet de donner, de faire les distinguos entre ce que je peux publier de manière personnelle ou professionnelle. Et par contre-coup, avec les moteurs de recherche, permettre aux entreprises de chercher précisément sur des mots-clés les tendances ou la publication d'informations sur tel ou tel mot-clé. C'est facile. Les points, je vais raccourcir un peu. Deux autres points. Il y a la typologie des blogs. Aujourd'hui, vous voyez grosso modo des blogs personnels et des blogs professionnels qui sont faits, et il y a un mix entre salariés, patrons, indépendants, institutions. Et il ne faut pas croire que un salarié, par exemple, si je prends mon exemple, mon blog est un mix entre du personnel et du professionnel. Ça n'est pas un blog officiel, je ne blogue pas au nom de Capgemini. Je blogue simplement en tant que personne et en même temps en tant que professionnel du web.
Alors, juste concrètement, vous avez demandé l'autorisation, non. Vous soumettez le contenu, vous, comment ça s'est passé?
Non, j'ai commencé à bloguer il y a 3 ans et demi, donc c'était une initiative personnelle, c'était en même temps ma façon, moi, de mettre le doigt là-dedans et d'expérimenter l'outil et de voir ses limites et de pousser les limites, voir où sont les
frontières. Donc il y avait de cette côté être en avant-poste pour après voir ce qui pouvait être fait au sein de Capgemini dans sur ces territoires-là.
Voilà, tout à fait. Ou moi personnellement en tant que...
Donc chez un autre employeur, bien évidemment, ça c'est certain, mais à court terme, en tout cas chez Capgemini.
Tout à fait. Donc c'est... moi j'ai vraiment essayé d'explorer cet outil-là sous à peu près tous ses aspects. Donc aujourd'hui, j'ai implanté aussi des blogs dans l'intranet de Capgemini. On est en train de préparer un blog institutionnel, ça aussi dans la typologie c'est une grosse différence, c'est-à-dire qu'on s'apprête à lancer des blogs à l'intérieur du site officiel capgemini.com qui va être tenu par les Chief Technology Officers de la maison, mais qui sera là l'utilisation de l'outil blog pour de la communication officielle de l'entreprise. Ce que fait déjà Sun, par exemple, avec le blog de son numéro 1 maintenant, qui est Jonathan Schwartz, qui avant était le numéro 2. On peut bloguer et être CEO d'une grande entreprise.
Tout
ça pour vous dire qu'il y a vraiment de très multiples facettes. C'est quelque chose d'assez protéiforme, le blog. C'est pas, si vous croyez que les blogs, c'est Skyblog, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est comme dire qu'ici, c'est une cour de récréation. C'est le même raccourci.
Alors là, ce jour, on revient, parce que même si les gens ont une connaissance, j'allais dire, globale de ce que peut être le blog, on est donc sur une plateforme qui permet d'avoir du son, de l'image, du texte, pour effectivement avec des facilités, parce que juste pour rappeler quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément praticien de la chose, rappeler deux, trois mots sur les modalités, les possibilités, déjà qu'on sache ce qui est possible de faire et comment on peut indexer ce type de contenu.
Alors le blog en tant qu'outil, c'est donc un système de gestion de contenu très simple qui permet de publier de l'information sous forme de billets. Un billet, c'est juste un ensemble de textes qui peut contenir des liens, qui peut aussi contenir du son. Dans ce cas-là, en diffusion, on appelle ça des podcasts, qui peut contenir de la vidéo. Chaque billet en tant qu'unité d'information a une adresse unique sur le web, hein, ce qui est extrêmement pratique, ça permet de s'envoyer un simple lien sur un billet et non pas d'envoyer des gens.
On envoie juste l'extrait, on n'est pas obligé d'arriver à la tête du chapitre ou à la tête
voilà,
du blog, on arrive directement dans la section.
On parcourir l'ensemble d'un site, on arrive directement sur l'information qui est intéressante. Et dans l'immense majorité des cas, les blogs permettent aux visiteurs de commenter. Ce qui est aussi une distinction par rapport à de la communication internet.
Donc là aussi, de manière très simple, il y a un lien, je souhaite commenter, faire un commentaire sur cet article.
En bas du billet, on a un simple formulaire et je peux rajouter un commentaire et le commentaire s'affiche sous le billet.
Donc, avec un filtre de la part de l'éditeur du blog ?
Il peut y avoir un filtre, on peut décider de ne pas ouvrir les commentaires déjà, on peut les modérer a priori, c'est-à-dire avant qu'ils n'apparaissent, on peut les modérer a posteriori, une fois qu'ils ont été publiés. Donc tout ça, c'est une gymnastique.
Alors quelle est la politique sur padawan.info ?
À moi, les commentaires sont ouverts et ils ne sont modérés a posteriori que lorsqu'ils sont injurieux ou illégaux.
Alors injurieux à votre égard ou injurieux à l'égard de tiers ?
J'en ai quelques. Il doit y en avoir un exemplaire ou deux qui sont limite injurieux à l'égard de tiers, mais qui l'ont vu et qui ne m'ont pas demandé de les retirer. Là, on est en train de dériver sur les aspects, les aspects de gestion et les aspects juridiques.
Donc vous avez fait pour le contrôle, la liberté, c'est-à-dire le commentaire libre et l'éventuelle correction de corriger le tir a posteriori si effectivement pour des débordements.
Moi, ma philosophie, c'est que ça vaut pas le coup de se lancer dans cette expérience blog si on n'est pas ouvert au dialogue, si on n'est pas prêt à se confronter à cet aspect-là de la philosophie des blogs, hein, qui est le dialogue. On parle de, il y a un certain nombre de valeurs forces qui sont la transparence, l'authenticité, la spontanéité et le dialogue. Pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans ces valeurs-là, ça va être un exercice très difficile, le blog.
Mais est-ce que ça se décrète quand vous dites, par exemple, voilà, on va proposer au CTO, donc au Chief Technology Officer de Capgemini, d'écrire. Bon, si c'est peut-être pas non plus dans l'envie naturelle, spontanée, de prendre la plume et d'écrire, est-ce que le moteur premier n'est pas déjà la motivation personnelle du détenteur du blog, ou en tout cas de celui qui va y contribuer ? Parce que, est-ce qu'on ne peut pas faire de blog sous la contrainte ?
Non. Non, mais pas, enfin, si, on peut, c'est on une peut idée certainement, du... je pense,
oh, bien
on
sûr.
Doit pouvoir tout faire sous la contrainte. Mais je pense que ça, la contrainte se verrait assez vite.
On est d'accord, donc c'est parce que ça, c'est une idée extérieure de la section communication en ligne de Capgemini qui va voir les CTO de Cap en disant « Oh, j'ai une très bonne idée pour vous, maintenant vous allez écrire des messages qui seront, en plus de votre activité, visibles, qui susciteront des commentaires et qui n'étaient pas prévus dans votre charge initiale de travail. »
Petite nuance. Moi, la façon dont j'ai procédé chez Capgemini, c'est de planter des graines à des endroits où je pense que le terreau était bon et elles ont poussé, effectivement. Pas de pousser l'outil parce que c'est à la mode, parce que c'est génial, parce que ça va nous faire faire des économies ou je ne sais quoi. Donc on a commencé sur des blogs à chaque fois très spécifiques, soit qu'on avait un événement particulier qui était le premier blog qu'on a fait était accompagné le changement de nom du groupe Capgemini qui passait de Capgemini Ernst & Young à Capgemini sur plus de 30 pays dans le monde et on avait des milliers de personnes auprès de qui on devait communiquer ce changement de nom. Et on ne connaissait pas forcément l'ensemble de ces réseaux-là. Donc on a utilisé l'outil blog pour faire ça. Maintenant, ça s'est développé sous la forme de bouche à oreille interne. Ensuite, où j'ai des experts qui avaient la volonté de faire un blog sur un sujet particulier dans l'entreprise. Et là, je suis assez content de voir que ce qui s'est passé, c'est que c'est surtout des communautés ou des expertises qui émergent à ce niveau-là et non pas des blogs individuels. Parce qu'on a aussi cette question qui est l'ego versus la collaboration. Là, je parle pour des blogs d'entreprise. Il y a, oui, le facteur d'ego, il est là et il peut plus ou moins prendre le pas sur la motivation du blogueur. Maintenant, par observation de ce qui se passe sur notre internet, c'est pas ce facteur-là qui prime. Je dirais pas la même chose pour des blogs de salariés, où je vais être honnête pour mon propre blog, mais c'est un blog, c'est un exercice personnel. Si vous voulez, on pourra aussi débattre de la notion de marque, qui est en train de dépasser largement la marque de l'entreprise aussi, pour certaines personnes. Et pour revenir au Chief Technology Officer chez nous, ce sont des candidats idéaux à l'exercice, tout simplement, parce que de toute façon, ils écrivent déjà, ce sont eux qu'on met en avant en face des journalistes, ou ce sont eux qui vont discuter avec les clients ou dans les conférences. Finalement, on leur fournit un nouvel outil.
Un canal supplémentaire voilà, d'expression.
Un outil supplémentaire dans leur arsenal, qui leur donne une bien plus grande visibilité qu'une conférence ou des discussions derrière des portes closes.
Alors, dernier point, mais au contraire, après je vous encourage à vous manifester, à poser vos questions. On a parlé effectivement, on avait le sentiment que dans les phases successives de communication, on était passé d'un espèce de brouhaha à une structure justement un peu harmonisée, un petit peu jardin à la française, avec notre porte-parole de l'entreprise, un directeur de la communication, un discours relativement harmonisé, structuré, prévu dans le temps avec le calendrier. Le problème, qu'est-ce que l'introduction du blog, justement, est-ce qu'il ne fait pas un peu exploser ce jardin à la française, hein, le côté d'une communication très, très posée, structurée, maîtrisée, et qu'on glisse vers le jardin à l'anglaise, fouillis, charmant, sympathique, mais extrêmement bordélique?
Oui, je pense que oui. On est naturellement plus apte à voir les contrastes, hein, que les nuances. Hein. Et quand je parlais de ces valeurs de transparence, d'authenticité, de spontanéité et de dialogue, clairement, il y a un contraste énorme entre ce qu'on voit dans la blogosphère aujourd'hui et ce qu'on connaît de la communication institutionnelle à la française.
Donc, oui, à la française, il y a en plus un tropisme particulier à l'Hexagone.
À la française, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des différences économiques et des différences de fonctionnement. Si vous regardez les États-Unis, par exemple, il n'y a plus aucune société technologique ou start-up aux États-Unis qui ne lance un produit, en tout cas quelque chose sur Internet, par exemple, sans passer par un blog ou un wiki ou une communication quand même un petit peu plus relaxe, hein, que se contenter de communiquer de presse ou passer par des agences de relations presse.
Donc ça veut dire que, d'après vous, la tendance, elle est vraiment à remettre en cause le mode, les canaux historiques, traditionnels de communication?
Je pense que le phénomène va provoquer des changements simplement par pression à cause de ce contraste-là. Maintenant, je ne pense pas non plus, je ne suis pas un adepte du tout ou rien, ou de... les blogs vont tout remplacer, ou je ne sais quoi. Quand je vois dans la communication... Moi, par exemple, la communication financière sur Internet est régie par un cadre légal extrêmement strict. Il va être extrêmement difficile en France, par exemple, de faire ce que fait Jonathan Schwartz aux États-Unis, qui est le CEO de Sun, qui publie à intervalles réguliers sur son blog des contenus très complets et assez provocants. En fait, il publie ce qu'il pourrait dire derrière des portes, enfin ce que en fait tous les industriels de l'informatique font, mais derrière des portes closes, pour parler franchement, en bavant sur leurs concurrents. Lui, il le fait.
Je pense que ça doit se retrouver dans d'autres domaines, en cherchant bien.
Ça se retrouve dans d'autres domaines, mais les lois aux États-Unis sont différentes, les lois en France sont différentes, et je pense pas, par exemple, pour prendre juste cet exemple de communication financière, c'est tellement encadré qu'on peut difficilement aujourd'hui changer ce mode de fonctionnement-là. Une des raisons pour lesquelles, par exemple, moi, je ne conseille pas à mon DG d'ouvrir un blog. Parce que pour DG d'une boîte du CAC 40, tout ce qu'il dit ou écrit est scruté à la virgule près. Et en fait, ça pose le problème de la spontanéité. À force à écrire, l'écriture sur un blog et les lois qui existent en France en matière de communication financière feraient qu'il perdrait en fait une
certaine spontanéité. Ou alors il faudrait qu'il fasse un blog sur ses vacances au Lavandou et ses...
Et ça n'aurait pas un intérêt phénoménal, je pense.
Ah, quand même.
Plus le temps.
Si vous avez des questions, madame.
C'est un paradoxe, parce qu'à la fois il y a cet élément perturbateur, ce fameux petit fouillis angoulême qui devrait perturber le genre à la française, comme le soulignait Nicolas. En même temps, juste après, vous avez pointé un phénomène de réinstitutionnalisation du blog au service de la marque. Donc finalement, on en est où? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas déjà. Finalement à une étape, une deuxième étape dans laquelle la fausse décontraction ou le relax se réinstitutionnalise tout en ayant encore l'air d'être en jean et en
fait. Est-ce que le 68A est déjà réembourgeoisé? Je résume.
Non, parce que du coup on avance en méfiance. Hein.
Le syndrome Serge Julie a frappé déjà la blogosphère.
Le blog devient un outil de communication qui est certainement tout aussi cadré finalement.
Oui, je pense que vous avez au démarrage deux extrêmes. Les pionniers qui ont eu une liberté à peu près totale, tout simplement parce que c'est simple, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas les frontières. Donc l'exploration, elle consiste à pousser, et bon, de temps en temps on se prend le pied dans le tapis, de temps en temps on se prend le mur. Et petit à petit, on voit où sont les frontières. Et de l'autre côté, vous avez une communication top-down complètement rigide, qui elle aussi est petit à petit en train de se relâcher un tout petit peu. Mais la vérité, elle est quelque part entre les deux. Et elle change aussi en fonction des entreprises, en fonction des situations. Moi, en tant que salarié, sur mon blog personnel, je suis couvert légalement par la loi française. Tout simplement les directives européennes sur la liberté de communication, et j'ai une liberté quasi totale. J'ai parfaitement le droit de parler de mon travail, de ce que je fais, etc. L'employeur ne peut rien m'interdire à ce niveau-là.
Même dans l'atteinte aux règles de confidentialité
Si, bien sûr. Non, mais après, il y a le cadre du contrat de travail, le cadre du code du travail. Il n'empêche que ce que l'employeur peut m'interdire, c'est ce qui est écrit au règlement intérieur, et ça, le code du travail le définit de manière exhaustive. On ne peut pas inventer des choses à rajouter dans le règlement intérieur. Mais évidemment, il y a la loyauté, ça c'est le code du travail, il y a la confidentialité en matière de secret industriel, de secret de l'entreprise, qui elle est régie par le contrat de travail. Maintenant, dire par exemple, vous n'avez pas le droit de dire que vous travaillez pour telle entreprise, ça c'est interdit. Vous avez parfaitement le droit de le dire, vous avez le droit de faire des photos. Vous avez peut-être entendu parler de cette hôtesse de l'air qui a été virée de chez Delta Airlines parce qu'elle avait publié des photos d'elle en uniforme sur son blog. En France, c'est interdit. Vous avez le droit de publier des photos de vous-même.
C'est-à-dire, vous pouvez poser en uniforme de Capgemini.
Parfait. Bon, il n'y a pas d'uniforme chez Capgemini, mais on ne peut pas virer quelqu'un pour une photo en uniforme, par exemple. Un cas récent, plusieurs élèves ont été suspendus de leur collège pour des injures à propos de leur professeur publié sur leur blog. Il y a, si je ne me trompe pas, au moins deux décisions du tribunal administratif qui viennent de tomber et qui ont annulé ces suspensions, reconnaissant de fait que les élèves ne sont pas élèves à dans le cadre, dans l'enceinte de l'établissement, 24 heures sur 24, et qu'en dehors de l'établissement, ils ont aussi une liberté d'expression. Ils auraient proféré ces injures-là dans la cour de l'école, ils auraient été suspendus. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui, effectivement, les frontières bougent un peu. Mais j'ai des exemples, moi, vécus chez Capgemini, où on voit clairement que la communication institutionnelle bien codifiée ne marche pas, et celle par le bloc fournit des résultats. Alors, c'est pas vrai pour tout, mais quand on a refait, par exemple, le nouveau site de Capgemini, on a fait un communiqué de presse qui a donné zéro résultat, qui a pris des jours et des jours à être fait et recontrôlé à la virgule près. Moi et deux autres personnes, on a publié, on a annoncé comme ça le lancement du site sur notre blog, et ça a ramené en 24 heures 10 000 personnes différentes sur le site. Moi, c'est juste un exemple d'utilisation de l'outil, d'utilisation intelligente. Mais les audiences ne sont pas uniques, elles ont plusieurs formes, les règles dépendent à chaque fois de la situation.
Comment est-ce qu'on entretient la flamme? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, en principe, la déontologie, l'esprit du blog est de dire on écrit que quand on a quelque chose à dire, on est censé laisser l'esprit d'origine, l'expérience montre qu'il peut être un peu dévié cet esprit d'origine, mais comment est-ce qu'on fait pour sur la durée réussir à se motiver à écrire, sachant qu'effectivement quelquefois les chiffres d'audience, alors là vous avez parlé pour Capgemini 10 000 d'un coup, mais de temps en temps ne sont pas forcément au rendez-vous et que donc il faut continuer à s'agiter tout en ayant l'impression de prêcher un peu dans le désert. Hein. Comment on fait pour de temps en temps, même pour le blogueur lambda? C'est sûr que si on est blogueur de McDonald's, on imagine, il y a des entreprises qui suscitent la réaction, le commentaire, l'analyse, etc. Comment est-ce qu'on fait pour tous les matins ou toutes les semaines continuer à garder l'enthousiasme pour écrire?
Bonne question. Moi, j'ai démarré à un rythme de parfois plusieurs billets par jour, mais des choses relativement courtes. Aujourd'hui, je suis plutôt sur un rythme d'un billet par semaine, voire plus relax que ça, mais des billets beaucoup plus longs, tout bêtement parce que j'ai pas forcément le temps et j'ai pas non plus aujourd'hui l'envie de noyer mon lectorat avec des choses qui les intéressent pas forcément. Si ça consiste juste à reprendre tiens machin à écrit que, ça j'évite. Je préfère écrire si j'ai quelque chose à rajouter par rapport à une information. Maintenant, j'ai le droit de dire je ne sais pas, c'est un peu je peux ne me baser que sur mon expérience personnelle. Moi j'aime écrire, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps, donc c'est pas mon premier livre, l'exercice n'est pas fondamentalement mystérieux. Par contre, ça peut amener des déceptions énormes chez des gens qui ne sont pas habitués à communiquer, qui ne sont pas habitués à écrire et qui vont trouver l'exercice
fastidieux, contraignant.
Vraiment contraignant, ou qui au contraire ne vont pas le trouver contraignant mais ne trouveront pas leur public parce que ça n'intéresse personne.
Il peut y avoir de grosses
déceptions.
C'est ce que je disais justement en termes d'audience, et cette frustration. En termes d'audience, vous avez une idée des gens qui sont intéressés parce que sur les thématiques que vous traitez, vous avez une idée un peu de votre lectorat?
Je peux vous donner déjà des chiffres aujourd'hui. Sur la dernière semaine, moi, mon blog tourne à un peu plus de 9000 visites par jour, ça fait 24 000 hits par jour, ce qui se divise en 13 000 et quelques pages vues et 4000 requêtes sur mes flux RSS.
Donc flux RSS, on rappelle.
Flux RSS, c'est une méthode de consultation de sites internet ou de blogs qui permettent, via un logiciel qu'on appelle un agrégateur, qui va chercher ce qui a été publié de nouveau depuis la dernière fois où on l'a ouvert et qui présente ces nouveautés-là. Donc ça évite d'avoir à...
L'idée, c'est d'éviter de reconsulter systématiquement
site par
tous les sites.
Et puis de se dire, voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été publié? Là, on a, c'est une sorte de revue de presse automatisée sur Internet.
En fait, ça sélectionne tout ce qui a été rajouté jusqu'à la dernière consultation, de manière à avoir justement
n'avoir
que la partie fraîche, entre guillemets.
Voilà, un peu comme la boîte de réception de l'email, ça me dit il y a tant de billets nouveaux sur tel et tel blog par rapport à la dernière fois où tu es passé par ici. Maintenant, la sociologie de mon lectorat, honnêtement, je pense qu'il y a un mélange de... Il y a un gros mélange. J'ai moitié-moitié à peu près de gens des États-Unis et de France.
Parce que le site est en...
Enfin, j'ai 38% de mémoire, ouais, c'est ça, 38% d'Américains, 37% de Français. J'ai deux blogs en fait, un en anglais, un en français. L'anglais est plus professionnel que le français parce que c'est ma langue de travail. Enfin, j'utilise pas les deux langues de la même manière. Le français permet de faire un peu plus de choses que l'anglais pour moi. Mais j'ai 46% du lectorat qui va sur la partie anglaise et 54% sur la partie française.
Très bien.
Ça fait de une fréquence de plusieurs billets par jour à un billet par semaine, voire moins. Est-ce que ça n'a pas fait chuter l'audience ou a fait varier l'audience?
Au contraire, elle a augmenté. Varier aussi peut-être. Non, mais je pense que 3 ans et demi après, il y a 3 ans et demi, en fait, moi j'ai amorcé la pompe, si vous voulez. Alors, c'est des audiences qui fonctionnent un peu comme ça, par palier. Il m'est arrivé d'écrire sur des sujets qui ont attiré une audience beaucoup plus large que ce que je touchais à l'origine. Il y a eu un débat, par exemple, sur la loi sur l'économie, la loi sur la confiance en l'économie numérique. Vous avez peut-être entendu parler, qui a modifié énormément de choses en matière de responsabilité de publication sur Internet. J'ai suivi ce dossier de très très près, j'ai fait des analyses et ça m'a attiré une audience assez importante. Je suis en train de perdre le fil de ce que je disais. Aujourd'hui, avec des dizaines de millions, personnellement, je pense qu'on est plus proche d'une centaine de millions de blogs sur Internet que des 40 millions que Technorati suit, parce que tous ne se signalent pas, ou eux, par exemple, ne voient pas Skyblog, donc ils perdent déjà près de 5 millions de blogs, et je pense que des exemples comme ça, il y en a plein.
Ce qui passe grand-chose, non, je plaisante.
Les agrégateurs, alors si vous ne connaissez pas les agrégateurs et que vous consommez beaucoup de contenu sur Internet, je vous conseille très vivement de vous intéresser à la chose, parce que moi ça a multiplié par 10 dans la même échelle de temps la quantité d'informations que je suis capable de filtrer plutôt que d'aller avec un navigateur web à la pêche, ou avec un email aller à la pêche aux informations. Le problème de ces outils là c'est qu'on finit par saturer complètement d'informations. Donc il y a trop d'informations. C'est aussi pour ça, j'ai des gens qui m'ont dit finalement je me suis remis à te lire parce que tu publies moins, des choses plus intéressantes mais beaucoup moins. Et il y a aussi ce problème de saturation. Si vous déboulez aujourd'hui dans la blogosphère et que vous commencez à faire 10 billets par jour, vous allez énerver très vite vos lecteurs parce que on est déjà sursaturé d'informations.
C'est le
ça. Ah. C'est différent parce que lui, il gagne sa vie avec. Donc c'est différent. Est-ce qu'on pourra parler du pire? Madame, à nouveau.
J'avoue que je n'ai pas entendu votre réponse, donc la réponse est toute peut-être. Est-ce que vous avez dégagé des typologies d'utilisation, finalement, du blog par entreprise? Vous avez pensé par entreprise, mais en tant qu'entreprise, de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire déguisée ou faciale?
Oui, il y a une liste dans le livre. De mémoire, je vais avoir du mal à vous la refaire, mais vous avez...
Quelles sont les grandes utilisations actuelles? Vous disiez tout à l'heure, il est rare maintenant que, notamment dans le domaine électronique ou informatique aux États-Unis, un certain nombre de lancements de produits ne soient pas accompagnés par soit le lancement d'un blog, soit une série d'informations sur le blog. Est-ce que ça vous paraît être une des utilisations assez courantes
Il y a l'usage externe, l'usage interne. En externe, un usage très classique, c'est de remplacer tout le marketing par un blog. Il y a beaucoup de startups qui font ça aujourd'hui, qui ne s'embêtent pas à créer un site institutionnel classique, vont ouvrir un blog. En France, deux exemples qui viennent en tête, il y a PhotoWays, qui fait du développement de photos sur Internet. Allez sur le PhotoWays, a grosso modo deux sites. Son site de commerce électronique où vous passez pour utiliser leurs outils, télécharger vos photos et passer commande, et le blog. En dehors de ça, vous allez trouver 3-4 pages institutionnelles pour les contraintes légales et les investisseurs, mais ça n'ira pas au-delà. Il n'y a pas de marketing au-delà de ce qu'ils ont fait. Ils ont créé avec ça, non seulement ils font leur marketing avec le blog, mais ils ont créé une communauté autour d'eux. Donc il y a, avec un phénomène qui est pour moi la récompense de ce genre d'exercice, c'est que quand vous ouvrez les commentaires sur Internet, vous avez forcément des gens, surtout quand vous avez une activité, des gens qui ne sont pas contents, qui viennent se plaindre, qui utilisent tous les moyens pour venir se plaindre. Ce qui se passe sur PhotoWays, ou ce qui se passe, je vais prendre un exemple américain beaucoup plus gros, qui est Southwest Airlines, qui vient d'ouvrir son blog, c'est que vos propres clients vous défendent par rapport aux gens qui viennent vous attaquer. Ça, c'est assez extraordinaire. Un deuxième exemple, il y a uneinvitation.com. Là, encore une fois, il y a un tropisme Internet. Hein. Ce sont des sociétés qui ont une forte présence ou dont l'activité dépend plus ou moins complètement d'Internet. Donc, voilà un exemple à l'extérieur. À l'intérieur des entreprises, l'outil peut être utilisé de multiples façons pour de la communication. Nous on l'a utilisé pour de la communication événementielle pour accompagner le changement de nom ou pour des projets, des conférences qu'on organisait à l'extérieur, des choses comme ça. On l'utilise pour de la communication en réseau sur des sujets particuliers. Donc, j'ai des gens qui m'ont demandé des blogs qui ne font pas partie de la même entité organisationnelle de Capgemini, qui ne travaillent pas dans le même pays, mais qui tous sont sur un sujet particulier. Ça peut être Java, la sécurité, l'open source, des choses comme ça, et qui ont demandé à ouvrir des blogs pour pouvoir cumuler de l'information qu'ils glanent à l'extérieur ou s'échanger des informations ou des opinions.
L'héritier du forum, là.
Bonne question. C'est l'héritier du forum avec une différence fondamentale. C'est que le forum, pour moi, c'est dans sa notion de forum... une vaste discussion dans laquelle n'importe qui peut lancer une discussion. Grande différence avec le blog, c'est que vous avez la notion d'auteur sur un blog, et ce sont les auteurs qui ont la main sur la ligne éditoriale. Donc moi, en tant qu'auteur du blog, je décide quels sont les sujets de discussion.
Pour que les termes soient précis, on parlerait quasiment là plus d'éditeur, parce que c'est vous qui allez avoir la main sur le contenu. Effectivement, c'est pour ça, peut-être un mot quand même sur les wikis, c'est-à-dire cette possibilité, ce même type à peu près de communication, enfin, de support que le blog, simplement qui permet à n'importe quel internaute cette fois-ci de modifier le contenu. Alors que là, effectivement, on a vu quand même que l'auteur du blog, l'éditeur, avait quand même la main in fine, même s'il pouvait supprimer les commentaires, pouvait éventuellement les retirer, les interdire. Alors qu'effectivement, la logique de ce wiki, W-I-K-I, est de dire... cette fois-ci, c'est la communauté des internautes qui peut librement modifier le contenu du site.
Tout à fait. Alors, pour terminer sur la description des blogs, donc c'est en fait une succession de billets qui sont présentés sur la page d'accueil du blog de manière antéchronologique, c'est-à-dire le dernier billet à avoir été publié est en premier. Vous avez la notion d'auteur qui peut publier les billets et les commentateurs qui peuvent venir ajouter des commentaires sur le billet mais pas modifier le contenu. Les wikis sont imaginés, ce sont des pages web, sont des sites web dont vous pouvez éditer le contenu directement sur place par le navigateur. Vous avez une page, imaginez, en bas il y a un bouton « Éditer cette page ». Vous appuyez dessus et vous vous retrouvez dans un mode d'édition avec un formulaire et tout le contenu de la page, vous pouvez le modifier, sauver la page et c'est fini.
Donc et les c'est wikis, cette page ce qui sera maintenant affichée sur le site.
Voilà. Les wikis sont des outils qui permettent aussi, qui sont aussi des outils de gestion de contenu, qui permettent de créer des sites web, avec là par contre, non pas une notion de billets, de cumulation de billets linéaires les uns derrière les autres, éventuellement catégorisés. Les wikis, là, ce sont des sites web où vous pouvez vous créer une page. Vous voulez créer une autre page et faire un lien, vous vous contentez d'écrire le mot qui décrit la nouvelle page dans une première page, ce lien apparaît avec un point d'interrogation, vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle page vierge et vous la remplissez. Donc c'est un outil qui permet très simplement de créer un ensemble de pages structurées sans avoir besoin d'autre chose qu'un navigateur web.
Voilà, et
sans compétences techniques, sans avoir à connaître le HTML, les méthodes de publication, c'est très simple. Et c'est très complémentaire du blog parce que ça permet, là quand on est plus dans une problématique de documentation, d'information un peu plus pérenne, je dirais, le wiki est plus intéressant qu'un blog. Là ça permet de faire de la documentation, de la documentation grosso modo. Là mais c'est de l'information beaucoup plus statique que le blog.
Un mot, justement, face à cette, vous avez parlé de la force du multimédia, la satisfaction de l'écriture, la réactivité, le commentaire en direct. Pourquoi avoir fait un livre ? Vous m'avez commencé à m'aiguiller tout à l'heure, c'est les droits d'auteur de la maison des éditions d'organisation qui sont séduisants.
Bien sûr.
Mais il n'y a que l'appât du gain, alors ?
Non, alors là, si vous n'avez jamais essayé ça, je vous déconseille fortement d'écrire un livre pour devenir riche, mais. Enfin, à moins d'être.
C'est
le prochain Harry Potter, oui, effectivement. Non, moi j'ai tendance à répondre à ça en disant c'est toujours le raisonnement tout blanc ou tout noir, c'est ou les blogs ou les livres. Je pense pas que le livre soit. Non, je ne pense pas que le blog soit l'avenir exclusif de l'homme, pour reprendre le petit entretien qu'on avait avant. D'abord forcément pour amener des gens qui ne connaissent pas les blogs au blog, ben, il faut peut-être sortir d'internet.
Une étape intermédiaire.
Et d'autre part, moi j'ai écrit ce livre, il y a tout de même un fil conducteur, je n'ai pas blogué ce livre, je l'ai vraiment écrit du début jusqu'à la fin avec une trame complète. Donc ça c'est quelque chose, c'est un exercice qui n'est pas faisable.
Vous voulez dire que c'est pas comme Ségolène Royal qui utilise la blogosphère pour faire constituer par d'autres son programme électoral, c'est ça ? Vous l'avez écrit tout seul ?
Je l'ai écrit tout seul, oui.
D'accord.
Enfin, je l'ai écrit tout seul en m'inspirant énormément de ce que j'ai trouvé ces dernières années sur Internet, hein, et de l'expérience que je peux avoir.
S'il y a d'autres questions, monsieur, pardon.
Quel est le droit pour un salarié d'ouvrir un blog dans son entreprise ?
Alors, à l'extérieur de son entreprise, il a parfait. À l'intérieur de son entreprise, ah ben là, il est soumis au bon vouloir de sa société et de son équipement. Dès lors qu'on utilise le matériel de l'entreprise, là, on rentre dans un autre cadre. Donc, par exemple, bloguer personnellement avec l'ordinateur de l'entreprise au sein de l'entreprise, c'est différent. Mais si, et là, par contre, si l'entreprise fournit ce genre d'outils, bah, oui. Mais là se pose la question de à quoi ça sert, quelle est la charte d'utilisation, qui s'en occupe, comment ça fonctionne et pourquoi. Moi, j'ai installé les blogs chez Capgemini, j'ai pas fait d'études de business plan ou de choses comme ça. Je savais intuitivement que l'outil avait un intérêt pour nous. Et c'est moi qui gère la plateforme de communication en ligne, donc j'avais les outils à disposition. Donc là, j'ai plutôt procédé sous la forme d'une forme un peu bottom-up, hein, même si je suis à la direction générale, de tester d'abord concrètement l'utilisation de l'outil là où je savais que ça avait réellement un impact intéressant. Mais par exemple, je n'ai jamais fait de communication globale sur 60 000 personnes pour dire on a des blogs, allez-y bloguer. Parce que là, ça pose des questions de fond qui doivent être abordées et réfléchies d'abord sur qu'est-ce que ça veut dire que d'ouvrir à 60 000 personnes une plateforme de publication libre. Même si elle est visible uniquement que sur l'intranet, il y a beaucoup de questions à se poser en matière de charte, en matière de conseils à donner aux salariés sur la bonne utilisation de l'outil, parce que le bon sens, c'est que des questions de bon sens, et le bon sens n'est pas partagé par tout le monde.
Mais ça veut dire que vous l'autorisez qu'à des salariés de confiance, parce que c'est un peu problématique quand même, le fait de dire tous pas égaux, il y a les chouchous du projet de la direction générale, comment ça se passe ? Le micro est là. Hein,
intuitivement, je dirais, si on est en France de toute façon, vous avez probablement déjà des salariés qui bloguent. Dehors. Et vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas. Alors,
les miroirs.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Se crisper, bloquer au risque d'augmenter ce volume de salariés mécontents qui bloguent à l'extérieur de l'entreprise ? Ou est-ce qu'il vaut mieux leur donner un espace d'expression qui est chez vous, que vous contrôlez, que vous voyez, où vous voyez les choses qui sont publiées de manière assez simple ?
Quand vous dites « ça ne se voit pas », c'est-à-dire que vous vous admettez, même comme une entreprise comme Capgemini, avec quelques connaissances technologiques, avec quelques moyens financiers, vous ne pouvez pas avoir une vision claire de ce qui se passe sur l'Internet avec un grand I, sur ce qui se dit sur vous, enfin, sur l'entreprise Capgemini.
On peut avoir une vision, mais on aura une vision...
complète de ce qui se passe. Vous pouvez tout à fait envisager que malgré votre connaissance, enfin, la connaissance de l'entreprise Capgemini, des moyens financiers dont dispose l'entreprise, qu'il y a des éléments vous concernant l'entreprise Capgemini sur la toile qui vous échappent.
Il y en a très certainement. Si les bons mots-clés sont là, a priori non. J'ai une batterie de robots qui sont programmés dans Google, dans Yahoo, dans Technorati ou à peu près tous les moteurs de recherche qui existent et qui pistent un certain nombre de mots-clés. Ça, je vous engage très vivement à le faire avec le nom de votre entreprise ou le nom de vos produits et services, et vous verrez ce qui se publie en temps réel sur vous, en temps réel voulant dire au mieux quelques heures, au pire les 24 heures à peu près, en tout cas plus... Il m'est arrivé dans plusieurs situations d'avoir l'information plusieurs jours avant mon service de presse et son système de filtrage de ce qui s'écrit dans la presse, par exemple. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer ce point-là. Sun, je reviens toujours à Sun parce que c'est les pionniers dans notre secteur, sur les blogs, a offert une ferme de blog à ses salariés. Une ferme de blog, c'est la plateforme, l'outil et l'hébergement gratuitement pour ses salariés. L'adresse, c'est blogs.sun.com. Et ça a eu un avantage. Ils ont dit aux gens, allez-y, bloguez. Il y avait l'équivalent en interne, l'équivalent en externe. Ils ont dit, vous faites ce que vous voulez, mais voici un certain nombre de règles et de choses qu'on attend de vous. Il ne faut pas critiquer les concurrents. C'est pas une arène pour faire du pugilat, etc. etc. Et il y a de toute façon une arrière-pensée business derrière qui était assez claire. Et ils ont des... j'espère que je ne dis pas une bêtise, ils ont plusieurs milliers de blogueurs, je crois que c'est 6 à 8 000, sur... Non, j'ai oublié combien ils sont chez Sun. Un autre exemple, c'est IBM qui a 330 000 personnes et a également fourni la même chose à ses 330 000 salariés. Tous ne bloquent pas, c'est qu'un pourcentage infime d'IBM qui le fait. Mais ce que Sun a pu faire grâce à ça, qu'une fois qu'ils avaient un volant de blogueurs qui bloguaient sur ce qu'ils faisaient, quand ils ont lancé un de leurs nouveaux produits qui était en fait la version logiciel libre de leur système d'exploitation qui s'appelle Open Solaris, au lieu de faire une campagne de lancement classique en demandant au marketing de produire des pages web, des brochures, etc., ils ont demandé à leurs salariés de parler de leur travail sur Open Solaris. Et au lancement du produit, quelques jours avant, ils ont envoyé une newsletter à leurs clients. J'ai reçu la newsletter et ce n'était pas la newsletter classique. Il y avait un petit mot laconique qui disait au lancement, allez sur blogs.sun.com. Et là, ils se sont contentés de prendre l'ensemble de leur ferme, de faire une simple, par leur moteur de recherche, de chercher Open Solaris. Et sur la page d'accueil de ce système-là, il y avait tous les billets écrits par les gens qui ont créé ce produit, les ingénieurs qui ont créé ce produit-là. Et ils n'ont pas publié, pratiquement ils n'ont rien fait en matière de marketing classique, c'est leurs salariés qui ont fait le lancement du produit. Et il y avait des centaines de billets le jour même, timbrés chez eux, si ça intéresse certains d'entre vous, à publier un récapitulatif de ça en matière de volume de mots écrits. ils ont grosso modo, je caricature un tout petit peu, mais pas eu besoin de lever le petit doigt et d'investir dans une campagne pour parler du produit. Ça s'est fait par leurs salariés et ensuite comme une traînée de poudre dans le milieu.
Si on pense que Capgemini, Sun, IBM, on est quand même très dans la planète techno. Pensez qu'il y a une période inévitable d'incubation et que c'est quand même pas demain que la SNCF aura son blog et que ça se passera comme ça chez les
Guillaume Pépi, qui est numéro 2 ou 3 de la SNCF, je ne sais plus, a son blog interne à l'intérieur de l'intranet de la SNCF.
Il a du temps, mais
la SNCF a aussi fait joujou avec les blogs sur Skyblog en ouvrant
un blog publicitaire. La SNCF a fait joujou, je pense que ce sera le slogan, mais la baseline. Mais simplement, est-ce que ça reste en usage aussi globaux, aussi industriel, aussi avancé, il se passera quand même encore un peu de temps avant que ça devienne un outil de communication pour des entreprises de secteurs plus classiques, enfin autres que justement la technologie IBM et Sun, qui et Cap, donc c'est quand même un élément essentiel du fonds de commerce.
C'est vrai. Alors là, c'est vrai que nous, on est une société technologique dans un secteur où, avec 80% d'ingénieurs diplômés qui sont friands d'outils de communication et de derniers outils à la mode, c'est pas non plus un choc culturel phénoménal.
Ça diminue pas votre mérite, remarquez. Mais non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que ça reste quand même un terreau favorable.
C'est un terreau favorable où une entreprise comme Southwest Airlines. C'est aussi un terreau favorable parce qu'ils étaient sur Internet très très tôt. C'est une des premières compagnies aériennes à s'être mise sur Internet. Donc c'est pas non plus culturellement un choc. Et aussi, ils ont une loyauté, une fidélité de leurs clients qui font que c'est une vraie partie de plaisir pour eux, en fait. Mais je pense à... quand je vois ce que fait Boeing, par exemple, le vice-président marketing de Boeing ou la direction générale de General Motors aux États-Unis, quand même des grosses entreprises industrielles, en face, j'attends toujours Renault et Airbus.
Et ça tient à quoi? C'est un problème de génération?
En fait, ma réponse, c'est pas vraiment, je crois, un problème de secteur d'activité. Je crois pas que l'outil soit interdit à certains secteurs, bien au contraire. Par contre, j'en reviens à culturellement, dans la culture du management en France, c'est problématique, toujours problématique.
Oui, madame, pardon.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un contre-exemple, un exemple pour rappeler l'utilisation d'un blog?
Le dernier que j'ai vu il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu parler de la Nissan Micra blog. Non, Nissan vient de sortir une Micra série limitée blog avec un site web qui pour moi est vraiment...
C'est-à-dire que la voiture s'appelle blog.
Quelle série, Roland Garros ou des choses comme ça. Alors là, on joue sur le...
On surfe.
Le hype. Mais surtout, il faut aller voir le site web de ce truc-là. Quoi. C'est... une espèce de faux blog. Alors vous avez la voiture, vous avez le blog climatisation qui va vous parler de la climatisation de la voiture. Alors il y a un billet climatisation, c'est absolument génial, je ne peux plus m'en passer, etc. Dessous, il y a un faux commentaire qui commence par je suis une blonde, etc., etc. Et puis il y a une réponse qui est une fausse réponse aussi. Voilà un exemple parfait.
Et quelle agence qui avait ça? Non, mais c'est pas complet. Ça doit sûrement être sur le blog.
Non, mais ça, vous le trouverez assez facilement. C'est,
Là, vous êtes sur un défaut, bon, sûrement marginal, mais évident, c'est qu'on est sur un faux blog, en fait. On est sur une tactique à...
Vieille recette de marketing, appliquée à un nouveau terrain.
Du coup, avec quelque chose de contradictoire avec la nature, et ça m'évoque justement parce que le blog, vous l'avez dit, est vraiment marqué par son auteur, un blog d'un auteur, légitime. Mais légitime en tant qu'auteur, mais est-ce qu'il y a, et au niveau des chiffres, des blogs qui naissent et qui sont capables d'aller loin dans la critique, dans même les excès qui peuvent être injurieux, et qui sont anonymes, parce qu'on trouve des gens qui vont sembler salariés de tel endroit ou légitimés dans tel secteur, et pour autant ils n'affichent pas la couleur, ils ne savent pas qui ils sont.
Alors j'ai deux exemples qui viennent en tête en France. Il y a le blog de Garfield, qui est un proviseur qui s'est fait épingler, qui a été révoqué à cause de son blog ce qui a provoqué la révocation dans l'administration, c'est la sanction la plus haute. Donc là, il y avait manifestement déclenchement, on a comparé ça au déclenchement de la bombe atomique pour régler un conflit qui aurait dû être réglé par une simple sanction administrative. La révocation a été annulée à la suite d'un tollé général sur la blogosphère qui a pris fait et cause pour le proviseur en question. Le deuxième exemple.
La révocation a été diminuée au sens où c'est entre guillemets limité à 6 mois, mais elle a été maintenue. Et là, c'est...
Non. La révocation n'a pas été maintenue. Elle a été transformée en suspension.
Oui.
Ce n'est pas la même chose du tout.
Une révocation, c'est un peu comme quand
vous coupez la tête. Il a perdu 6 mois de salaire, mais il n'a pas été rétrogradé. Il a retrouvé un poste qui correspond à sa demande, d'ailleurs.
S'il n'y avait pas eu autant d'agitation, de simplement une discussion d'avocat à avocat, c'est-à-dire entre spécialistes, peut-être n'aurait-il même pas été suspendu de la sorte. Parce que si on regarde ce qu'il y a dans les réglementations juridiques, tout ce qui réunit l'avis des fonctionnaires, rien ne permettait de suspendre comme ça pendant 6 mois. Donc moi, rétrospectivement, je me demande si tant de bruit, finalement, ça n'a pas d'une certaine manière pu entretenir une situation conflictuelle.
Honnêtement, c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui. Je ne sais pas, je ne connais pas les arcanes de l'administration. Je ne l'ai vu, moi, que de l'extérieur. J'ai aussi pris fait et cause pour cette personne parce que je suivais son blog et je trouvais que les accusations étaient complètement infondées. De ma perception complètement externe de la chose, il y a eu un dérapage phénoménal au sein de l'éducation nationale et Gilles de Robien s'est fait rouler dans la farine par les gens qui lui ont proposé la révocation.
Oui, mais c'était la première fois, donc.
C'était la première fois, ils ont fait une erreur, mais il est revenu dessus extrêmement rapidement. C'est quand même aussi quelque chose d'assez notable. Parce que c'est des procédures qui sont... Il aurait pu passer par le tribunal administratif, etc. Gilles de Robien est revenu sur sa décision très vite. Enfin, il a annoncé très vite qu'il reviendrait sur sa décision, ce qui est quand même, ce qui était un aveu, en fait, d'erreur dès le début. On va pas passer la... Enfin, on pourra en discuter après. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est un inspecteur du travail qui bloguait de manière anonyme et qui a été dénoncé par un employeur qui a reconnu... En fait, il est allé un petit peu trop loin, où il a donné trop d'informations sur son blog. Il a été reconnu par un chef d'entreprise. Je ne me rappelle plus la région, je crois que c'est Lyon. Est dénoncé à son administration et le blog a été fermé tout de suite après. Donc là, il y aura, paraît-il, des suites judiciaires derrière.
Là, vous avez donné deux exemples de blogueurs masqués. Qu'en est-il des blogueurs masqués ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle des gens dont le métier ou l'activité principale consiste à aller miner, déminer, commenter d'un penchant ou dans l'autre, notamment du blog, puisque ça devient maintenant un véritable outil de communication, c'est-à-dire au-delà de la création de communautés, ça devient quand même un endroit sur lequel on peut faire et défaire des choses.
Oui, oui. Donc, et ça existait déjà avant, et il y a des gens qui font ça dans les forums. Il y a même des gens qui font ça de manière quasi professionnelle pour des questions de manipulation de cours.
Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle des blogueurs professionnels ?
Des blogueurs professionnels masqués, j'en sais rien, pourquoi pas. Des blogueurs payés pour ça, oui.
Non, mais c'est exactement ce dont je parlais.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre un certain nombre de points de vue sur un certain nombre de blogs, que ce soit en termes commercial ou en termes politiques, par exemple.
Je pense même qu'il y a des gens qui font ça sans être payés. Hein. Il y a des trolls, mais ça c'est plus une pathologie qu'autre chose. Il y a des gens qui vont faire ça parce que ils vont défendre mordicus leur entreprise, même de manière pas très finaude. Des gens qui vont faire ça chez leurs concurrents. Oui,
est-ce que ça
sûr.
Modifie, par exemple, le poste de chargé des relations publiques ou attaché de presse dans un certain nombre de structures ?
Ah, alors, Effectivement, il y a une grosse question quand on fait, quand on se lance dans l'exercice à l'extérieur pour une entreprise. La question d'ouvrir les commentaires est très importante parce que ça demande... le blog, ça prend du temps à la fois pour écrire, mais ça peut aussi prendre du temps s'il a du succès en termes de surveillance de ce qui s'y passe. Alors si ça marche bien, c'est pas de la surveillance, c'est tout simplement du dialogue. Et là, je pense que si on veut vraiment profiter de l'outil, c'est aussi ce qu'on attend de la chose, d'avoir un dialogue avec les audiences qu'on veut toucher, ça peut être ses clients, ses propres collaborateurs, etc. Mais c'est une quantité non négligeable. Donc il faut s'attendre à devoir passer du temps à ce niveau-là.
D'ailleurs, justement, parce qu'on est forcément impressionné par la connaissance que vous avez acquise de la blogosphère, ça vous prend combien de temps entre je consulte et je produis ? C'est-à-dire que dans votre vie, ça, quelle place est-ce que ça occupe, même d'un point de vue très concret, très physique, de temps passé ?
Je dirais au pire 2 heures dans la journée, sinon entre 1 et 2 heures. Mais la petite spécificité de mon métier, c'est que...
7 jours par semaine ?
Non. La petite spécificité de mon métier, c'est que je suis un... Je travaille professionnellement sur Internet depuis 10 ans et je fais beaucoup de veille. Donc de toute manière, dans ma journée normale, il y a une grande partie du temps qui est consacrée à parcourir ce qui s'écrit, ce qui se publie et de faire de la veille technologique sur Internet. Donc c'est en fait ce temps-là aujourd'hui, je l'utilise aussi pour... faire germer des idées ou glaner des informations qui vont faire germer des billets que je vais écrire. Mais également, j'utilise mon blog comme outil de... c'est un outil qui me permet, moi, de me mettre en relation avec des pairs sur Internet ou de formaliser des questions que je peux avoir et à travers les commentaires des gens qui viennent chez moi, avoir les réponses aux questions que je me pose. Donc c'est aussi un outil qui en grande partie me sert professionnellement. Maintenant, sur la part personnelle, celle-là c'est très simple, je l'ai pris sur la télévision.
En temps passé. Et justement, on parlait des vacances dans le lavandou du directeur général de Capgemini, mais est-ce que vous arrivez à décrocher ? Comment ça se passe est-ce qu'il y a une accoutumance, docteur ? C'est grave ?
Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, de même qu'il y a une accoutumance. Grosso modo, pour faire mon métier, j'ai besoin d'un accès à Internet et d'un ordinateur. Ce qui apporte aussi un problème dans la mesure où, quand mon employeur sait que j'ai un ordinateur et une connexion à Internet, il y a aussi un débordement dans l'autre sens. Donc, exactement comme je peux aussi avoir de temps en temps des problèmes à me déconnecter de la messagerie d'entreprise, même le week-end ou pendant les vacances, je peux aussi avoir des problèmes à me déconnecter de la blogosphère. Mais je me soigne.
Et alors, comment est-ce qu'on se soigne, justement ? Non, mais blague à part, parce que c'est vrai que ça doit être une préoccupation, cette obsession de se dire, déjà, il y a
un entretien à la parano en disant... Comme pour arrêter la cigarette ou le sucre dans le yaourt, faut le faire.
De la volonté, de la volonté.
C'est dur au début, mais ça marche bien après.
En ce qui concerne, est-ce qu'il y a un droit à l'oubli sur le net ? C'est-à-dire que l'idée de se dire, voilà, là vous dites ça fait 3 ans et demi, je crois qu'il y a vos archives assez longtemps. Est-ce qu'à un moment il faut dire, halte au feu, on passe à autre chose, on ferme, est-ce qu'on donne tout à la Bibliothèque nationale en faisant un don, en disant c'est pour la culture française ? Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'histoire sur le temps ?
C'est une excellente question, et en fait il existe un droit à l'oubli dans la législation, même pour les... à part pour les crimes contre l'humanité, pour à peu près tout le reste, légalement, il existe un droit à l'oubli, et pour une très bonne raison. Et ben justement, ce droit-là n'existe pas sur Internet, et c'est un gros problème. Google a une mémoire d'éléphant, il y a des sites dont la fonction unique est d'archiver tout ce qui a été publié, et ça, c'est un vrai problème.
Parce qu'il y a même des sites d'archivage, des sites internet défunts, qui assurent le stockage. Quand vous allez fermer votre site, il y a des sites dont le travail est justement de stocker les sites qui meurent.
Et Internet est une vaste bibliothèque qui contient de plus en plus de choses, et des choses très intéressantes. Moi, personnellement, je ne travaille pratiquement avec aucun fournisseur où j'irai pas embaucher quelqu'un sans avoir fait une recherche sur Internet au préalable.
C'est-à-dire, est-ce que le fait de rien trouver, c'est inquiétant ? Évidemment, si c'est pour le recruter au service communication en ligne de Capgemini, vous allez me dire oui, évidemment, ça c'est un peu préoccupant. Mais en temps normal, le fait qu'il n'y ait pas de. Bah non, il n'est pas visible.
Mais même si je veux recruter un expert dans quelque chose, aujourd'hui, j'irai chercher, est-ce que cette personne communique, est-ce qu'elle a publié quelque chose, est-ce que je peux voir ce qu'elle a publié, est-ce qu'elle est capable de tisser des liens avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est une valeur, c'est une valeur professionnelle aussi. Donc, en tant que recruteur, c'est plutôt un plus. Maintenant, si je tombe effectivement sur des choses plutôt compromettantes, après, il y a des questions.
Donc c'est là où vous dites que le droit à l'oubli, vous n'êtes pas fan non plus, parce que vous dites que c'est quand même bien, parce que ça me permet de récupérer des éléments sur quelqu'un.
Non, je suis parfaitement favorable au droit à l'oubli, mais le... Je dis que, comme tous les outils, c'est un outil qui peut être dangereux, donc il faut savoir, il faut bien l'utiliser. Et il faut être conscient aussi des dangers de cet outil-là. Maintenant, comment vous dire, une expression que j'avais utilisée une fois, c'est après tout, les voleurs peuvent entrer par les fenêtres, fermons toutes les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il existe des dangers que l'outil est fondamentalement
mauvais.
Dangereux.
D'accord.
Fondamentalement mauvais.
Oui, madame.
En fait, on arrive à la question du moi numérique. Est-ce que vous considérez que vous avez un moi numérique et que vous avez un gérer? Si oui, comment?
Enfin, il y en a deux en français et en anglais déjà en plus. Alors.
Oui. Alors, clairement oui. Ce livre, par exemple, je ne l'aurais pas écrit si je n'avais pas fait le blog. En fait, c'est une commande d'Erol. C'est pas mon idée d'avoir écrit ce livre. J'ai été...
Vous voyez qu'on peut écrire sous la contrainte.
Je n'ai pas été contraint par Erol d'écrire ce livre, mais ils m'ont proposé de le faire. Et leur choix s'est fait sur mon blog, entre plusieurs candidats possibles. Donc le moi numérique, il est... moi, François Nanenmacher, si j'étais simple salarié de Capgemini sans ce blog, je ne serais pas ici, par exemple. Vous parlez de blog...
Ce que vous regrettez, ce que vous auriez regretté.
Ça répond à votre question ou pas? Pour compléter, la notion de marque, en fait, est peu ou prou en train de s'étendre à au-delà de l'entreprise et de ses produits.
Oui, parce que aussi, quand on parle de marque, il y a l'image publique, il y a l'image intime. L'estime, enfin, c'est auprès des utilisateurs, mais pas simplement des gens qui pratiquent une communication de première vente. Aujourd'hui, il y a une notion de marque, des notions numériques de la marque. Qui sont mis sur le net, qui sont propagés, les initiatives telles que lancées ou pas, et puis la façon dont elles commencent à se gérer ou pas sur les réseaux sociaux.
Donc, finalement, idem pour la personne.
Voilà, c'est pour ça que je me demandais si vous, parce que c'est un peu aussi les notions. Qui émergent, donc de dire est-ce que ça correspond vraiment à une réalité concrète. C'est ça que la question est de savoir s'ils sont.
Peut-être un élément de réponse à ça, c'est que vous avez carrément des business models qui marchent aujourd'hui, bâtis entièrement sur le moi numérique. Prenez Yahoo avec Flickr et Delicious. Flickr, c'est un service qui vous permet de publier vos photos en ligne. Donc stockage, vous avez un portfolio, c'est votre boîte à chaussures de photos, mais en ligne. Vous pouvez les rendre publiques, vous pouvez les restreindre à une communauté d'amis qui peuvent mettre des commentaires, etc. Delicious, c'est un système de marque-page, de bookmark en ligne. Vous pouvez, au lieu de stocker vos bookmarks dans votre navigateur sur un ordinateur, vous les mettez sur ce service-là. Donc vous avez accès à vos bookmarks n'importe où sur plusieurs machines. Et c'est partagé, c'est-à-dire que vous pouvez dire, cette page-là, vous mettez des mots-clés, et d'autres gens peuvent chercher vos bookmarks par les mêmes mots-clés. Ces deux trucs-là sont des startups qui ont été créées, qui ont été rachetées par Yahoo. Que fait Yahoo ? Yahoo va faire de l'argent là-dessus, mais c'est votre moi numérique à vous, c'est-à-dire votre contenu qui commence à être capitalisé par des entreprises. Donc vous travaillez gratuitement à créer du contenu sur Internet qui ensuite est exploité commercialement par Yahoo, Google et compagnie. Donc le moi numérique commence même à être une très bonne variable économique.
Quelle est l'étape prochaine ? C'est-à-dire que là, vous débutez cet ouvrage par un état des lieux. qui va au fur et à mesure forcément être caduque. Vous avez donné des chiffres de progression qui sont effectivement, même s'ils ne sont pas rigoureux.
Il était chaud quand le bouquin.
Voilà, justement, il était, donc c'est ça qui est rassurant. Quelle est l'étape prochaine? C'est-à-dire que ça, d'après vous, ça y est, le truc est lancé, et puis maintenant c'est plus entre les sociologues et les historiens de faire le travail, ou il y a encore, vous allez continuer à accompagner cette analyse?
Je vais continuer à accompagner cette analyse. Contractuellement, si Roll me demande, je dois faire les mises à jour du livre. Oui, je pense qu'on est au tout début. On est au tout début de la chose, parce que on n'est pas au tout début des blogs. Ça fait 6-7 ans maintenant. Il n'empêche qu'on est encore qu'au tout début de la perception grand public, hein, et même pour les entreprises, de ce phénomène-là. Donc on est aujourd'hui sur les questions de où sont, toujours sur les questions de exactement où sont les frontières, et où les blogueurs regardent avec dédain les grands communicants institutionnels qu'ils considèrent comme des dinosaures, et les autres regardent en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc on est encore dans une phase où ça va évoluer. Maintenant, je pense que l'ère de la publication personnelle, elle est là, elle est installée pour un...
Après Jurassic Park et les dinosaures, c'est plutôt Bordelic Park. A priori, on va vers ça. Alors, un des éléments très intéressants, au-delà de la lecture de cet ouvrage, moi je renvoie effectivement à ce... c'est vrai que, dans l'ancien temps, dans le monde des dinosaures, on mettait de l'Académie française. Vous avez mis en dessous l'adresse de votre blog, donc Padawan, qui veut dire P-A-D-A-W-A-N.
Oh, c'est une blague sur mon job de webmaster, maître de toile, et Padawan, c'est l'appellation dans la guerre des étoiles des étudiants, des apprentis.
Bien.
Je me considère plus comme un apprenti qu'un maître de la toile. Voilà.
Bien, très bien. Juste... Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice, et donc blogueur d'entreprise aux éditions d'Organisation. Merci François Nonnemacher. Merci.